Amen. Donc nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour déclarer les vertus de celui qui nous a appelés. Celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Alléluia. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous sommes en train de parler de l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Nous avons vu dans Hébreux 12 que l'Église n'est pas une entité humaine. L'Église n'est pas une entité naturelle dont l'existence est limitée à la terre. L'Église est une entité spirituelle. Et l'Église vit dans le même environnement spirituel que tous ces personnages que nous avons vus dans Hébreux 12. Dans Hébreux 12, nous avons vu que nous n'avons pas été appelés à la montagne qui fait peur. Nous avons été appelés au Mont Sion, au Jérusalem céleste, à la cité du Dieu vivant. Nous avons été appelés à côtoyer les esprits des justes qui sont venus à la perfection. Avec des myriades et des myriades d'anges, à Dieu qui est le juge de tous. Nous avons été appelés à Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Ça, c'est l'environnement spirituel dans lequel fonctionne l'Église. Et il est important pour nous de prendre conscience de cet environnement spirituel. Il est important pour nous de commencer à vivre dans la conscience de tout ce beau monde qui nous entoure. Alléluia. Je dis toujours que je ne suis jamais seule. Je suis toujours en compagnie du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et non seulement ça, des anges qui nous entourent. Et des anges qui m'entourent. Vous n'êtes jamais seul. À moi de chasser vos anges. Et je doute même que vous puissiez les chasser. Thank you, Jesus. Et le Saint-Esprit est toujours là. C'est une vie extraordinaire à laquelle Dieu nous a appelés. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. La première fois que nous entendons parler de l'église, c'est Jésus lui-même qui dit, je bâtirai mon ecclésia, mon assemblée à moi. Le monde a ses assemblées, mais moi je vais avoir mon assemblée. Je veux avoir un peuple qui m'appartient, que je vais sortir de ce monde et je vais constituer en assemblée. Et cette assemblée sera à moi, portera mon nom, aura ma nature et vivra selon mes règles. Ça, c'est l'Église. C'est ce que Jésus avait à cœur quand il a dit, je bâtirai mon Église. Ce qui est extraordinaire, en plus, c'est que Jésus a dit, je la bâtirai. Donc, en notre cas, elle sera bâtie. Dites, elle sera bâtie. Elle sera bâtie. Parce que Jésus a dit, je la bâtirai. Et si on peut faire confiance à quelqu'un, on peut faire confiance à Jésus. Amen. Alléluia. Donc, puisque nous voyons que c'est Jésus qui a dit qu'il bâtira son église, la première chose, moi, qui me vient, c'est que l'église n'est pas simplement une bonne idée. C'est que l'église est une idée divine. Ecclésia, c'est une idée divine. C'est Dieu qui en a eu l'idée. Si Dieu en a eu l'idée, c'est que c'est une bonne chose. Là, vous n'êtes pas convaincus. Si Dieu en a eu l'idée, c'est que c'est une bonne chose. Je peux être convaincu toute seule. Ah, je peux m'en réjouir toute seule. Toute seule avec Béa. C'est une bonne chose. L'Église est une excellente idée. Et il faut que nous commencions à penser de cette manière-là. Parce que nous pouvons regarder l'histoire de l'Église et voir beaucoup de choses qui sont allées de travers avec différentes choses qui se sont passées. Mais Dieu n'a toujours pas changé d'avis. Il n'a pas fait rayer ces passages du Nouveau Testament. Jésus continue à dire aujourd'hui, je bâtirai mon Église. Et Jésus continue à chercher dans chaque génération des hommes et des femmes qui vont le prendre au mot, qui vont dire, Seigneur, avec moi, moi aussi, moi aussi. Il y a quelques années, le Seigneur m'a donné une parole prophétique et partout où j'allais pour prêcher, je leur disais, Dieu est en train de recruter. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez dans le naturel. Quand on regarde dans le naturel, on peut voir différents types d'assemblées. Là, ils chantent beaucoup, là, ils chantent pas du tout. Là, ils n'aiment pas les gens, là, ils ne parlent pas. Là, le pasteur est dans l'adultère, là, c'est de... Il y a toutes sortes de choses. Et beaucoup de gens regardent ces toutes sortes de choses et deviennent découragés et s'éloignent de l'église et s'isolent de l'église et disent « Ah oui, moi, les religions, oh, moi, ceci. » Vous entendez ça tout le temps. Parler à quelqu'un dans le « Ah oui, mais tu sais, les religions institutionnelles, hein ?» Quelqu'un aurait dû dire à dit Jésus de ne pas dire qu'il bâtira l'église. Mais donc le Seigneur me disait d'aller partout où j'allais pour prêcher. Je disais, Dieu est en train de recruter. Il est en train de regarder des gens qui peuvent voir dans l'esprit, qui peuvent voir l'invisible, qui peuvent appeler à l'existence ce qui n'existe pas, qui peuvent écouter le cœur de Dieu et dire ce que Dieu veut amener à l'existence, je vais participer avec lui pour l'amener à l'existence. Je ne vais pas regarder ce que je vois dans le naturel qui ne me paraît pas comme positif. Nous avons toutes sortes de choses que nous pouvons dire, mais Dieu a dit, je bâtirai mon église. Et si Dieu l'a dit, c'est que c'est bon. Et si Dieu l'a dit, c'est que tout ce qu'il nous faut, c'est dire, Seigneur, je réponds présent. Donc je le disais, Dieu est en train de recruter. La question est de savoir qui va rester dans le moule ancien, qui va rester avec le vin ancien, ou qui va décider que Dieu fait une chose nouvelle et je veux participer. Parce que dans chaque génération, Dieu est toujours en train de recruter. Alléluia. Dis Dieu recrute. Et moi, je dis oui. Alléluia. Dieu est en train de recruter. Donc, l'église est une idée divine. Et comme toute idée divine, il y a toujours une opposition démoniaque. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit, les forces, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Parce que les portes de l'enfer vont essayer de prévaloir contre elle. Donc, lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons membres de la famille de Dieu, nous entrons dans le royaume de Dieu, nous entrons dans le groupe, dans l'assemblée de Jésus. Et la première chose qui se passe, c'est que les portes de l'enfer commencent à s'agiter. Et c'est la raison pour laquelle vous avez tellement de chrétiens qui sont là, je comprends pas, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est que les portes de l'enfer sont en train de s'agiter. Et bien, Jésus a donné une promesse, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Et nous pouvons regarder autour de nous aujourd'hui et voir dans notre société à quel point les gens sont parfois méprisants vis-à-vis de l'église, vis-à-vis des chrétiens. Et beaucoup de chrétiens sont devenus des sous-marins qui se cachent, qui n'osent plus s'avouer chrétiens parce que sinon les gens les prennent pour des crétins et donc ils ne veulent plus que quiconque sache qu'ils font partie de l'église. Mais dans toute génération, il y aura une opposition, mais les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Ce qui veut dire que Jésus a déclaré que mon ecclésia, mon peuple à moi, aura la capacité de résister à toutes sortes d'adversités. Aura la capacité d'être dominante dans toutes sortes de circonstances. Que quel que soit le degré de position, si j'ai un peuple qui est en accord et en phase avec moi, ce peuple va toujours être victorieux. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. La nature de l'église, la nature même de ce peuple qui a reçu la vie de Dieu en lui, c'est de conquérir. Alléluia. Et donc, lorsque l'église, et la première chose que nous voyons, c'est que dans la mesure où Jésus a dit que je bâtirai mon église, le fondement de l'église, c'est Jésus lui-même. Et le fondement doit toujours être Jésus lui-même. Ce qui nous unit, c'est la foi en Jésus. C'est l'amour que nous avons pour le Fils de Dieu. Parfois, il n'y a rien d'autre qui nous unit. Dans mes voyages, je vais souvent dans des églises et elles sont tellement différentes de tout ce que j'ai connu. Mais lorsque c'est des gens qui aiment Jésus, tout de suite, il y a un courant qui passe. Il y a quelque chose qui se passe entre nous. Et je sais, voilà, nous avons reçu, nous avons bu du même esprit. Maintenant, l'église a aussi une façon de fonctionner. Comme j'ai dit la semaine dernière, Jésus n'a pas dit « je bâtirai mon chrétien ». Il a dit « je bâtirai mon assemblée ». Le propre de l'église de Christ, c'est que l'église se rassemble. Vous rencontrez tout le temps des personnes qui sont chrétiennes, mais qui ne vont plus dans aucune église. Ah, moi, les églises, oh, tu sais, pas besoin de se rassembler. Et parfois, nous amenons des gens à Christ et qui ne comprennent pas pourquoi, mais moi, je fais du sport le dimanche matin. Pourquoi je dois aller aux réunions? Ah oui, mais moi, le dimanche matin, c'est sacré. Je peux pas me réveiller avant midi. Et de plus en plus, aux États-Unis, ils font des sondages et ils découvrent que les chrétiens modernes du 21e siècle, même pas modernes, mais post-modernes et post-post-modernes, ont décidé que ce n'est plus nécessaire de se rassembler avec d'autres chrétiens. Il suffit de regarder un message sur Internet et de prier parce que le Saint-Esprit est en moi. Mais c'est important pour nous de comprendre ce que Dieu, lui, a à cœur. Alléluia! Pour ne pas être tenté de tourner le dos à l'assemblée. Le sens même du mot église, ecclésia, veut dire assemblée. Le propre d'une assemblée, c'est de se rassembler. Je vais le répéter. Le propre d'une assemblée, c'est de se rassembler. Alléluia. Le propre d'une assemblée, c'est de se rassembler. Donc, c'est essentiel que le peuple de Dieu se rassemble. Et ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par les pasteurs du 20e siècle, ni même du 14e, ni même du 15e, ni même du 16e. Déjà dans la tradition juive, le peuple de Dieu se rassemblait. Le peuple de Dieu se rassemblait dans les synagogues, au temple. Il nous est dit souvent que Jésus allait dans les synagogues pour enseigner la parole de Dieu parce que les gens y étaient rassemblés. Alléluia. Les gens y étaient rassemblés et il y allait pour annoncer la parole de Dieu. Et de la même façon, lorsque l'église est née, rappelez-vous le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n'est pas venu sur eux individuellement dans leur maison. Amen. Ils étaient ensemble. Ils étaient rassemblés. Ils étaient rassemblés. C'est lorsqu'ils étaient rassemblés que le Saint-Esprit est venu sur eux tous ensemble. Ils étaient dans le même lieu. Alléluia. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu fait lorsque son peuple se rassemble. Et la parole de Dieu nous dit également qu'ils se retrouvaient tous les jours dans le temple. Ils se rassemblaient. Ils se rassemblaient dans les maisons. Nous, on se rassemble une, deux fois par semaine. Eux se rassemblaient tous les jours. Alléluia. Acte 5, 42 nous dit que chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils se rassemblaient. Les apôtres enseignaient. Lorsque Barnabas et Saül sont allés à Antioche, la parole de Dieu nous dit qu'ils se réunirent aux assemblées de l'église, c'est-à-dire aux réunions de l'église. Pendant toute une année, ils étaient à Antioche. Et l'église se réunissait et Barnabas et Saül participaient et enseignaient. Partout, nous voyons l'église primitive, c'était des gens qui se rassemblaient. Lorsque Paul a quitté Derbe, il est retourné à Icône, à Lystre, à Antioche, et la parole de Dieu nous dit qu'il a nommé des anciens dans chaque assemblée. Il y avait des anciens dans l'assemblée parce qu'il y avait un groupe, il y avait une communauté. Jésus est venu fonder une communauté, pas des individus isolés. Parce que ce dont Dieu a besoin, ce sont des personnes qui se rassemblent, qui se réunissent, qui constituent encore le descriptif même de l'Église. Comme le corps de Christ nous montre qu'il y a une unité, il y a une union, il y a le fait que nous venons ensemble. Le bras n'est pas en Suisse, et le pied en Angleterre. Alléluia. La parole de Dieu nous parle, nous nymphes. Colossiens 4, 15, saluez les frères qui sont à Laodicée et Nymphas et l'église qui est dans sa maison. Il y avait aussi des églises dans la maison de Philémon, les églises dans la maison de Priscille et d'Aquila. Les chrétiens se rassemblaient. Les épîtres étaient des épîtres qui étaient écrites dans des églises qui se rassemblaient. Alléluia. Dans la lettre qui a été écrite aux Corinthiens, l'apôtre Paul leur a envoyé les salutations des églises d'Asie, des assemblées d'Asie. C'était des communautés. Alléluia. Dans une autre lettre, il a parlé des assemblées de Galatie. Et quand vous lisez 1 Corinthiens, vous allez constater que l'apôtre Paul n'était pas en train de donner des instructions sur la manière dont chaque chrétien devait se comporter dans sa maison isolée des autres. Il était en train de donner des instructions sur la manière dont les chrétiens rassemblés devaient se comporter. Il dit, quand vous vous réunissez, voilà comment vous devez faire. Ceci pour nous faire comprendre que dans l'idée de Jésus, lorsqu'il a dit « Je bâtirai mon église », il a établi l'église. Dans l'idée de Jésus et la compréhension des apôtres était que chaque enfant de Dieu devait appartenir à une assemblée locale, à un corps, à un endroit et se réunir régulièrement. Amen. Mais se réunir pourquoi? Je vais vous demander de tourner dans Actes chapitre 2. Je bâtirai mon église. Alléluia. Rappelez-vous, Jésus a même envoyé des messages aux sept assemblées. Parce que parfois nous disons, oui, moi je fais partie de l'église universelle. Je ne participe à aucune assemblée locale. Il n'y a qu'une église. De toute façon, l'église universelle. Ils auraient dû le dire au Seigneur parce qu'ils ne devaient pas en être conscients lorsque dans Apocalypse, il a envoyé des messages à différentes églises. Il n'a pas dit, dis à l'ange de mon église universelle. Il dit à l'ange de l'église de Thyatire. L'église de l'Odyssée. Et ainsi de suite. Parce que des assemblées s'étaient constituées localement. Et Jésus est toujours en train d'édifier des assemblées localement. Et invite chaque enfant de Dieu à y participer. Pourquoi se réunissait-il? Pourquoi nous nous réunissons? C'est important de comprendre pourquoi nous nous réunissons. Quel est le but? Après tout, j'ai une voix. Je peux chanter Dieu dans ma maison, toute seule, et je le fais. Alléluia. Après tout, je sais prier. Je peux prier toute seule dans ma maison, et je le fais. Et je n'ai même pas besoin qu'on me réveille. Je me réveille toute seule comme une grande. Alléluia. Après tout, j'ai la parole de Dieu. Je l'ai en anglais, en français, en espagnol, en portugais et en yoruba. Et je l'ai en audio et je l'ai sur Internet. Alors, à quoi ça sert de nous réunir? Pourquoi Jésus tient à ce point, à ce que nous réunissions? Comme vous regardez d'ailleurs les déclarations qu'il a faites vis-à-vis de toutes ces différentes églises, vous allez voir que ces églises étaient de caractères différents. Il ne s'agit pas de l'église universelle. Une église un peu ambiguë, à laquelle je fais partie, mais sans en faire partie. Parce que chaque assemblée avait des difficultés différentes, avait des victoires différentes, avait des soucis différents, et Jésus a parlé à chacune en fonction de ce qu'elle vivait. Et Jésus a des choses à dire à chacun de nous. Donc nous constatons que ce n'est pas une idée moderne que de vouloir réunir les gens les dimanches matins ou le vendredi soir et que les premiers chrétiens en réalité se réunissaient plus que nous. Alléluia! Ils se réunissaient tous les jours. Dites tous les jours. Ça peut nous inspirer ici. Amen! Ils se réunissaient tous les jours. Et donc pourquoi, qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là quand ils se réunissaient? Parce que quand même, vous savez, nous sommes des gens très occupés. Nous avons beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'amis, beaucoup de loisirs. Et en plus, on nous demande de venir à l'église deux fois par semaine. Deux fois, mais parce que ça va être beaucoup. Deux! Mais un! Deux! Deux fois dans la semaine! Mais tu vas faire de nous des fanatiques. On est chrétiens, on n'est pas des fanatiques, mais deux fois à l'église. Alléluia. Et moi, je lis la parole de Dieu, je dis, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Chaque jour, tous assidus. Alléluia. Nous pouvons tous dire alléluia.
Alléluia.
Merci Seigneur pour de bons exemples. Glory to God. Dans Actes 2, verset 42, pourquoi se rassemblaient-ils? La parole de Dieu nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Dites enseignement. Amen. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et puisqu'ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, la conséquence, le résultat, c'est que la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres.
Amen.
Le résultat, lorsque le peuple de Dieu se réunit dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières, c'est que la crainte s'empare de beaucoup et que des prodiges et des miracles se font. Alors, ils allaient encore un peu loin, ces gens-là. Parce qu'ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit. Ils partageaient. Ils étaient ensemble, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu. Quand ils étaient rassemblés, ils louaient Dieu. Et ils trouvaient grâce de tout, auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Quand ils se réunissaient, la première chose qui se passait, c'était l'enseignement de la parole. Donc nous devons comprendre la priorité majeure de nos réunions, c'est l'enseignement de la parole. Donc le temps de l'enseignement de la parole, ce n'est pas le temps de s'assoupir et de dire, c'est le moment du repos, nous avons bien dansé. Alléluia. Le temps de l'enseignement de la parole, c'est le moment de tendre l'oreille et de dire, nous sommes en train de faire ce qu'il y a de plus important ici. Et nous le savons, dans cette église, nous avons vu, l'enseignement de la parole est essentiel. Nous sortons des ténèbres, nous entrons dans le royaume de Dieu, et Dieu a une façon différente de faire et de fonctionner. Il est important pour nous que nous commencions à saisir comment Dieu pense. L'enseignement de la parole, c'est l'explication et la communication de la vérité, la révélation de ce qui est sur le cœur de Dieu. Et les apôtres ont trouvé l'enseignement de la parole tellement important, qu'à un moment donné, lorsque les gens commençaient à se plaindre du fait que le service n'était pas fait de manière équitable, qu'il y avait des gens qui ne trouvaient pas à manger alors que d'autres mangeaient, les apôtres ont pris conscience, ont dit, mais on n'est pas ici pour manger. Manger, c'est bien, mais il y a plus important. Ils ont choisi les diacres pour servir à table et ils ont décidé qu'eux allaient se consacrer à l'enseignement et aux prières. Au ministère de la parole de Dieu. Et pourquoi le ministère de la parole est si important? Parce que ce qui change nos vies, c'est la révélation que nous avons de la pensée de Dieu. C'est lorsque nous adoptons la pensée de Dieu que nos vies sont transformées. Ce qui change nos pensées, ce qui change notre manière de nous comporter, c'est la compréhension de la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu que nous faisons nôtre. Comment est-ce que nous acquérons la pensée de Dieu? Par l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est important que nous commencions à comprendre que l'enseignement de la parole de Dieu a un but réel. Ce n'est pas le moment pour le pasteur de faire son show et nous de faire notre sieste. C'est le moment de commencer à discerner qu'est-ce qui est sur le cœur de Dieu par rapport à tel sujet ou tel sujet ou tel sujet. Et les apôtres prenaient ça tellement au sérieux qu'ils le faisaient tous les jours. Ils enseignaient tous les jours, tous les jours, tous les jours, communiquer la vérité de Dieu, communiquer le cœur de Dieu. Et rappelez-vous, les premiers chrétiens, c'était quand même des gens qui connaissaient un petit peu la parole. Ils avaient les anciennes écritures. Ils avaient l'Ancien Testament. C'est après que la parole de Dieu a été amenée vers les gentils, vers les païens. Alléluia. En dépit de cela, les apôtres ont trouvé que c'était essentiel d'enseigner la parole de Dieu. Jésus a fait de même. Jésus enseignait partout. À chaque fois, la parole de Dieu nous dit que Jésus allait dans les synagogues comme il avait l'habitude de faire. Jésus avait l'habitude d'aller à l'église. C'est amen.
Amen.
Alléluia. Et il allait partout. À chaque fois, il allait dans les synagogues et il commençait à enseigner. Chaque fois, il rassemblait les gens autour de lui et il commençait à enseigner. Si vous lisez Matthieu, vous allez voir les enseignements de Jésus détaillés. Nous pensons que Jésus n'a fait que guérir. Non, Jésus a beaucoup enseigné. D'ailleurs, nous avons intérêt à nous plonger de nouveau dans les enseignements de Jésus. Et il enseignait des choses très pratiques par ailleurs, qui nous feront beaucoup de bien. Alléluia! Nous allons y faire un peu plus attention, n'est-ce pas? Amen! Et Jésus a passé beaucoup de temps à enseigner. Les disciples ont fait de même. Ils ont passé beaucoup de temps à enseigner. Et Jésus nous a donné le mandat d'aller enseigner. Rappelez-vous lorsqu'il nous a dit d'aller faire des disciples nations, il nous a dit d'aller leur enseigner, leur apprendre à obéir. Comment est-ce que nous obéissons lorsque nous recevons la révélation de ce qui compte pour Dieu? C'est là où nous commençons à obéir. Nous ne pouvons pas obéir à ce que nous ne connaissons pas. Amen. Qu'est-ce qui a envie d'obéir? Ah, j'ai envie d'obéir. Et pour voir l'importance de la parole de Dieu, rappelez-vous la parabole du semeur. Jésus lui-même nous a expliqué l'importance de la parole de Dieu. Il nous a parlé du semeur qui est sorti pour aller semer. Et les différentes terres sur lesquelles sont tombées sa semence. Et il nous a dit, il nous a expliqué après que la semence est... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à Babia qui le sait? La semence est... La semence est... La semence est...
La parole.
La semence est...
La parole.
La semence, c'est
la parole de Dieu.
La semence, c'est
la parole de Dieu.
La semence, c'est
la parole de Dieu.
Alléluia. Certains sont réveillés. Glory to God. La semence, c'est la parole de Dieu. Si Jésus lui-même nous explique l'importance de la parole de Dieu, nous comprenons l'importance de la semence, l'importance de la parole, l'importance de l'enseignement. Donc, lorsque l'Église se rassemble, la première chose, c'est l'enseignement. Donc, si nous comprenons que l'enseignement est important, et à ce point-là important aux yeux de Dieu, nous devons commencer à prêter attention à ce qui nous est enseigné. Nous n'avons pas l'occasion de nous réunir tous les jours. Mais nous avons l'occasion de nous réunir deux fois par semaine. Et lorsque nous sommes réunis deux fois par semaine, nous pouvons écouter ce qui est enseigné et l'appliquer dans nos vies. Cette semaine, nous avons mis l'enseignement de la semaine dernière sur Internet. Et nous avons eu déjà des échos de personnes ayant écouté l'enseignement. Une personne a écrit et a demandé, c'est quand la suite? Et j'étais très frappée par cela parce que nous avons fait l'étude de cet enseignement hier. Et j'étais très intéressée de voir que les personnes qui l'avaient déjà écouté ne s'en souvenaient plus. La parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas être des auditeurs oublieux. Et que lorsque vous écoutez une parole dont vous ne vous souvenez pas, cette parole est perdue. Vous êtes comporté comme une des terres qui n'a pas porté de fruits. Mais si la parole de Dieu nous dit que l'enseignement est important à ce point-là, nous devons en faire une priorité. Dites priorité.
Priorité.
Priorité. Nous devons en faire une priorité. Et l'enseignement que vous avez oublié, la parole que j'ai oubliée, c'est la parole qui n'a pas servi dans ma vie. Je veux que vous compreniez que Dieu est très pratique. Nous, les charismatiques, on pense que Dieu est constamment, il sait jamais ce qu'il va faire. C'est vraiment des coups de tête. On pense que Dieu est un peu fantaisiste. Dieu n'est pas fantaisiste. Dieu est très pratique. Dieu donne une parole pour accomplir un but. Et c'est à celui qui est enseigné de recevoir cette parole et de la mettre en application dans sa vie. Et si je ne l'ai pas étudiée, si je ne l'ai pas reçue, je ne peux pas la mettre en application. Et la parole de Dieu, c'est un peu comme un médicament. Cette parole vient pour régler quelque chose de spécifique dans ma vie. Alléluia. Je suis souvent épartée par des fois, nous faisons une série d'enseignements sur tel ou tel thème. Et juste après cette série d'enseignements, on a fait 6 semaines d'enseignements sur quelque chose. Et juste après, quelqu'un vient me voir qui a besoin d'aide. Exactement dans ce domaine. Et qui ne sait pas quoi faire. Alors, si la personne ne sait pas quoi faire, j'en conclus qu'elle n'a rien entendu des 6 dernières semaines d'enseignement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et dans l'église, nous avons les gens qui font le tour de la même montagne. Parce que la parole est enseignée et ils n'écoutent pas. Ou ils écoutent et ils oublient. Ou ils écoutent et ils n'appliquent pas. Et donc, les mêmes circonstances reviennent dans leur vie, mais la parole qui est donnée pour régler ces circonstances n'est pas reçue. Dieu utilise sa parole comme un médicament pour répondre à nos questions, pour régler les difficultés dans nos vies, pour nous donner une plus grande révélation de Dieu. Et quand on a une plus grande révélation de Dieu, on a de l'audace, on a de la force, on a de l'assurance, parce qu'on connaît celui en qui on a cru. Et on n'est pas balayé, comme dit la parole de Dieu, par tout vent de doctrine. Dès que quelqu'un vient qui a un peu de caractère un peu, et qui est un peu imposant, qui vient dire, oui, mais est-ce que tu sais que les cheveux de l'Apocalypse, mais c'est ça? Ah bon? Je ne savais pas. C'est le pasteur l'Antichrist? Oh non, non! Ça vous fait rire. Mais vous serez étonné par ce que les gens croient. Et pourquoi ils sont égarés? Parce qu'ils ne reçoivent pas l'enseignement qui est donné. Et donc, n'importe qui vient avec un peu de bagou, avec n'importe quelle affirmation, et c'est la panique à bord. Dites enseignement. 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 Ils persévéraient dans l'enseignement. Tellement important que les apôtres ont décidé de tout mettre de côté pour se consacrer à l'enseignement. Donc, lorsque nous nous rassemblons, nous recevons l'enseignement. L'enseignement que nous recevons va communiquer quelque chose de Dieu à nos vies. L'enseignement que nous recevons va amener une lumière dans nos vies. L'enseignement que nous recevons va amener la révélation de Dieu dans nos vies. L'enseignement que nous recevons va provoquer un plus grand amour pour Jésus dans nos vies. L'enseignement que nous recevons va nous conduire à souhaiter et à désirer davantage les choses de Dieu. L'enseignement que nous recevons va nous donner un fondement solide, des assises solides dont notre foi va répondre à nos questions. Et quand quelqu'un vient pour vous poser une question, pour vous déstabiliser, vous avez la réponse. Alléluia. Et donc, quand les gens viennent me voir, après que j'ai enseigné pendant 6 semaines sur un thème, je dis, oui, mais j'étais un problème. Je dis, wow, tu n'as rien écouté des 6 dernières semaines d'enseignement, manifestement. Et il y a des fois où nous avons des choses, nous avons l'impression que nous aurons besoin que 10 frères jeûnent nuit et jour pendant une année pour régler nos problèmes. Et tout ce qu'il nous faut, c'est écouter la parole de Dieu. Et quand nous écoutons attentivement et nous réécoutons, la foi vient de ce qu'on entend. Et qu'on entend. Et Dieu nous a bénis dans notre génération, nous n'avons pas d'excuses. Vous pouvez entendre à l'église, après vous pouvez entendre sur Internet, et entendre de nouveau, et prendre le CD, et entendre. Et c'est ainsi que nous sommes bâtis, dites bâtis. Jésus bâtit son église avec sa parole. La révélation de sa parole est claire, et elle donne de l'intelligence au simple. Nous avons besoin d'être éclairés. Et quand nous nous rassemblons, et que la parole est enseignée, nous écoutons attentivement. Et ce que nous écoutons attentivement va porter des fruits dans nos vies. Alléluia. Va donner une réponse à une question que nous nous posons. Va nous donner une foi solide. Va nous permettre de nous tenir. Et après, nous repartons avec l'enseignement. Nous réécoutons encore à la maison. Nous réécoutons. Et nous posons des questions. Nous réécoutons et encore. Au point où nous-mêmes, nous pouvons prêcher le message. Amen. Glory to God. Pourquoi ils se réunissaient? Ils persévéraient dans l'enseignement. Il persévérait aussi dans les prières. Dites prière. Si tu as ton voisin, tu dois prier. Tu dois prier sérieusement. Dieu veut que tu pries. Alléluia. Il persévérait dans les prières. Quand il se réunissait, il priait. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont prié pas. Et qui ne vont pas dans les réunions de prière. C'est anormal. C'est anormal. Il y a un pasteur d'une grande église aux États-Unis, à New York, qui a une réunion de prière dans son église, à laquelle une bonne partie des gens de l'église assistent, et c'est une très grande église. Et il dit que partout où il va, les gens l'invitent beaucoup pour parler de la prière. Et il va dans ces méga églises pour parler de la prière. Et ses pasteurs n'en reviennent pas. Ils disent, mais comment tu fais pour réunir autant de monde pour prier? Et nous, avec nos grandes églises, nos 10 000 membres, si on a plein de réunions de prière, personne ne viendra. Mais la parole de Dieu nous dit qu'ils se rassemblaient et ils persévéraient dans la prière. Quand on se rassemble pour prier. Alléluia. Dieu a dit, demandez-moi. La prière, c'est une idée divine. Si c'est une idée divine, c'est que c'est une bonne idée. Et ce que Dieu va accomplir dans nos vies, il va accomplir avec sa parole et avec nos prières. Amen. Et souvent, nous avons tellement besoin de prières parce que nous ne prions pas. Et quand il y a réunion de prière, les chrétiens sont censés être là. Parce que c'est ce qu'il y a de plus normal. Ça, c'est être un chrétien. Il persévérait dans les prières. Et je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau et est en train de changer les mentalités parce que nous aimons beaucoup tout ce qui est concert. Vous faites un concert chrétien, c'est bondé. Mais ils ne se réunissaient pas pour faire des concerts, les premiers chrétiens. Les concerts, c'est très bien. Mais le concert, ce n'est pas une réunion qui est indiquée dans la parole de Dieu. Le concert, ce n'est pas la louange. C'est un concert. Ils peuvent conduire les gens dans les chants. Ils peuvent même décider de les conduire dans la louange. Mais quand l'église se réunit, elle est censée prier. Et quand l'église se réunit pour prier, l'église est censée être là. Alléluia! Dis-toi, ton voisin, tu es censé être là. Quand l'église se réunit pour prier. Alléluia! Thank you, Jesus. Parce que ce que Dieu va accomplir sur la terre, il va accomplir à travers son ecclésia et les prières de son ecclésia. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire sur la terre et que Dieu veut faire dans nos vies qui ne sont pas faites parce qu'il n'a pas trouvé des gens pour les lui demander. Et pour les lui demander comme il faut. Lorsque nous parlons d'enseignement, par exemple, il y a un lien entre l'enseignement et la prière. Parce que l'enseignement, c'est sur différents thèmes. Il y a aussi un enseignement sur la manière de prier. Vous rencontrez des gens tout le temps qui disent, oui, mais j'ai prié, je vois rien. Peut-être que tu ne pries pas comme il faut. Il y a une façon de prier. Il y a une attitude dans la prière. Il y a des aides que Dieu nous donne dans la prière. Il y a le fait de prier dans l'esprit. On apprend à prier. Lorsque les chrétiens se réunissent pour prier, ils apprennent à prier. Moi, j'ai eu la joie dans cette église de voir les gens grandir dans la prière, apprendre à prier. Qui au début pour prier, bonjour, hein? Dis, waouh! Ça va, ça, tu vas y arriver. C'est sûr que tu vas y arriver. Dieu est grand. Et au fur et à mesure, je vois une évolution. Et au bout d'un moment, on les laisse y aller parce que franchement, ça prie. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. On se réunit pour prier et au début, parfois, les gens ne savent pas. Alléluia. Dis alléluia, alléluia, un peu plus fort. Alléluia. Un chouïa plus fort. Alléluia. Et au fur et à mesure que l'on se réunit, on apprend, on apprend, on apprend. Et au bout d'un moment, la personne est là. Oh, alléluia, gloire à Dieu, béni soit le nom de Dieu. Oups, alléluia. Parce que nous allons de gloire en gloire. Amen. Amen. Lorsque l'église se réunit, l'église prie. Pourquoi nous nous rassemblons? Nous nous rassemblons pour l'enseignement de la parole qui va changer nos vies. Nous rassemblons pour prier ensemble. Nous nous rassemblons aussi pour la communion fraternelle. C'est pour cela que la Bible dit que nous sommes une famille. Une famille se rassemble. Est-ce que vous savez que tous les groupes d'intérêt se rassemblent? Non chrétiens, non religieux. Dès que vous avez un groupe de personnes qui ont des choses en commun, ces gens se rassemblent. Se rassembler, c'est parfaitement normal. Vous allez voir, par exemple, les anciens alcooliques se rassemblent dans AA. Mm-hmm. Les partis politiques se rassemblent. Hallelujah. Les joueurs de golf se rassemblent. Association des anciens du joueur de tennis se rassemble. Nous avons quelque chose en commun qui est infiniment supérieur à toutes ces activités humaines. Nous avons la vie de Dieu. Nous sommes censés nous rassembler. Et lorsque nous nous rassemblons, nous communiquons entre nous des choses qui contribuent à notre vie spirituelle. Lorsque nous nous rassemblons et nous prions ensemble, nous faisons la volonté du Père. Nous sommes en mesure de prier selon le cœur de Dieu pour que Dieu puisse accomplir ses desseins sur la terre. Tellement de choses qui ne sont pas faites et les chrétiens n'en comprennent pas. Non, non, on comprend très bien. C'est parce que les chrétiens ne se rassemblent pas pour prier. Lorsque nous nous rassemblons, nous participons à l'édification commune. Dans 1 Corinthiens, lorsque l'apôtre Paul a donné des règles sur la manière de prophétiser, il a dit que tout doit être fait pour l'édification commune. Alléluia. Lorsque nous nous rassemblons, nous nous encourageons mutuellement. Vous venez, vous avez tel souci, vous pensez que c'est la fin du monde. Après, vous parlez avec quelqu'un qui vous dit des choses, qui ne connaît pas votre situation et qui vous encourage. Vous êtes là, waouh, c'est trop bien. Dieu savait que nous avions besoin de nous rassembler. Nous rassembler pour servir sa cause à lui, nous rassembler pour notre bénédiction et notre édification. Je me souviens il y a quelques années de cela, quand je venais d'arriver en France, je n'arrivais pas à trouver une église comme je connaissais en Angleterre et comme je connaissais au Nigeria, je n'arrivais pas à trouver et je ne connaissais personne. En fait, je ne connaissais pas de chrétien, pas un seul chrétien. C'est très drôle, hein? Je ne connaissais pas un seul chrétien. Du tout. Alors j'avais mon église en Angleterre, tout était bien, mais bon, je suis arrivée ici, j'ai essayé toutes sortes d'églises. En plus, je ne connaissais pas les différents mouvements. Chaque dimanche, je regardais dans les pages jaunes, je cherchais un endroit où aller. Ah, j'en ai vu des assemblées. J'aime toujours l'église, vous vous rendez compte? Dieu est fort. Et j'ai allé partout, des églises de ceci et des églises de cela, des églises de la septième trompette et de la quinzième victoire et des réformés. Enfin, je suis allée partout parce que je cherchais une église. Je voulais me rassembler avec d'autres frères et sœurs, me rassembler pour l'enseignement de la parole, pour l'édification. Et je me souviens une fois, parce que les personnes autour de moi, à la résidence universitaire savait que j'étais chrétienne et que je cherchais une église d'ailleurs. Et il y a une personne qui a rencontré une fille qui était chrétienne ou qui la connaissait avant, je ne sais pas. Et cette personne lui a parlé de moi. Et la fille, elle est venue dans ma chambre, elle a fait irruption dans ma chambre. Hello, I'm Margaret. Je sais qui ça. Je l'ai. Okay, so who's Margaret? Et elle dit, bonjour, je suis Margaret.
Ouais, Margaret.
Et elle s'est présentée, elle dit, ah, c'est une telle qui m'a parlé, t'as vraiment, t'es chrétienne. Je dis, oui, oui, oui. Ah, mais je suis chrétienne, I'm a Christian. Tu veux venir à l'église avec moi? Je dis, oui, oui, s'il te plaît. Oui, je veux venir à l'église avec moi. C'est avec toi, sauve-moi, s'il te plaît. Et elle m'a amené dans une église, c'était merveilleux parce qu'en ce moment-là, il y avait aussi un serviteur de Dieu qui venait des États-Unis. Et vous savez, je n'avais pas mon assemblée locale. Je cherchais, j'étais là, j'allais là. C'est curieux parce que je suis tombée dans aucune église charismatique. Vous avez remarqué, je suis charismatique. Moi, j'aime tout ce qui est du Saint-Esprit, j'aime louer Dieu, j'aime danser, j'aime bouger. J'arrivais dans des églises qui étaient un peu plus... Un peu calme, disons. Un peu plus calme, plus tranquille, un peu plus... Et oui, vous savez, chacun son style. Ce n'était pas le mien. Je les aimais, mais je dis, Seigneur, aide-moi. Et elle m'a amenée dans une église où les gens louent Jésus et bénissent le Seigneur et chantent et prient. Je dis, oh, thank you, Jesus. Alléluia. Il m'a dit, wouh, amen, amen, amen. Quelque chose s'est passé. J'ai été édifiée. J'avais l'impression qu'on me donnait de l'eau à boire. Alors que j'étais asséchée. Et je buvais. J'étais là, oh, glory to God. et le message qui a été prêché dans le sens de la puissance de Dieu, la victoire de Dieu, l'autorité de Dieu, la victoire de la croix, et j'étais là, yes, alléluia. Ça réveillait quelque chose en moi. Parce que j'étais devenue un peu... Pourtant, ce n'était pas mon héritage spirituel, mais au fil du temps, les choses commençaient à se tasser. Vous comprenez? C'est ce qui se passe lorsque nous délaissons le rassemblement. Les choses commencent à se tasser. Parfois, on ne s'en remet pas compte. Ça commence à se tasser. On est toujours là, on aime Dieu, mais bon. Et ce jour-là, oh, j'étais réveillée. Et je ne me suis plus jamais endormie.
Amen.
Alléluia. Oh, j'étais réveillée. Et ce serviteur de Dieu, je l'aimerais à perpétuité. Et j'honore cette église à perpétuité. J'étais réveillée, édifiée. Alléluia. Pourquoi nous nous rassemblons? Pour l'édification commune. Il y a quelque chose que vous avez qui va édifier la personne à côté de vous. Il y a parfois une façon dont vous louez Dieu qui va toucher la personne à côté de vous. Vous êtes là beaucoup, je me dis, oui, je ne me sens pas bien, je ne vais pas à l'église. Mais justement, il faut aller à l'église. Parce que si tu y vas et que tu prêtes l'oreille au lieu de critiquer et de condamner, quelque chose sera fait et sera dit qui va te réveiller. Alléluia. Oh, ce jour-là, j'étais réveillée. Et je bénis le Seigneur parce que, comme je dis toujours, Dieu a toujours le dernier mot. Parce que quand je suis venue à Christ, je n'aimais pas les églises. Vous connaissez mon histoire, je n'aimais pas les églises, je n'aimais pas les chrétiens, je n'aimais pas les serviteurs de Dieu, je me méfiais de tous, ils voulaient que mon argent. Je n'avais pas beaucoup d'ailleurs, hein? Je n'avais vraiment pas de crainte à avoir parce que j'en avais très peu, mais quand même. Et Jésus m'a littéralement séduite et il m'a appris à aimer l'église. Et Dieu veut que nous aimions l'église, que nous aimions les frères et sœurs, que nous les estimions, que nous les honorions, que nous ne regardons pas l'apparence extérieure, mais que nous regardons le fait que nous sommes ceux qui ont reçu la vie de Dieu. Nous faisons partie de la même famille. Lorsque nous commençons à discerner le corps de Christ de cette manière-là, alors vous pouvez vous retrouver dans une assemblée où ils sont un peu plus calmes que vous, vous les aimez, vous les honorez. Vous ne savez pas dire, oh, mais c'est complètement mort là-bas, mais c'est n'importe quoi, oh là là, non. Ce n'est pas le même style que vous. Mais ils aiment Jésus. Alléluia. Vous pouvez décider que ce n'est pas là où Dieu vous envoie. Mais ils aiment Jésus. Alors pourquoi ils se rassemblaient? Ils se rassemblaient pour l'enseignement, pour la communion fraternelle, ils se rassemblaient pour prier, ils étaient tout le temps ensemble dans le même lieu. Ils se rassemblaient pour l'édification commune. Et c'est la même raison pour laquelle nous nous rassemblons. C'est tellement triste parfois de voir des gens qui sont assidus pendant un certain temps et après pour une raison ou pour une autre, ou quelqu'un leur a dit quelque chose, ils se sont vexés, ou ils se rendent compte, oulala, mais... ou je veux ça et j'ai demandé, Dieu ne m'a pas donné, donc je ne viens plus. Quelle que soit leur raison, vous voyez des gens qui à un moment donné sont waouh à fond parce qu'ils sont là, ils sont édifiés dimanche après dimanche, samedi après samedi. Et quand ils perdent cette communion continue, vous les revoyez après, vous dites waouh, est-ce qu'il avait, il avait même connu Jésus il y a une époque? C'est la raison pour laquelle nous nous rassemblons. Nous nous rassemblons parce qu'il y a une présence de Dieu extraordinaire lorsque le peuple de Dieu se rassemble. Rappelez-vous Paul, non pas Paul, c'était Pierre et Jean, lorsqu'ils ont été menacés par les autorités du peuple. La Bible nous dit qu'ils sont retournés vers les leurs. Dites les leurs. Les leurs. Les leurs. Les leurs. Les leurs. Les leurs. Chacun de nous doit avoir un endroit que nous considérons comme les nôtres. Nous devons tous avoir les nôtres. Dites-le à votre voisin, tu dois avoir les tiens. Ta maison à toi. Alléluia. Ils sont retournés vers les leurs. Ils sont retournés vers leur assemblée. Et ils ont parlé avec eux de ce qui a été dit. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils se sont mis à prier. Et au verset 31 du chapitre 4, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Alléluia. C'est ce qui se passe lorsque le peuple de Dieu se rassemble et prie. Alléluia. Les lieux tremblent, les ténèbres tremblent. Amen. Les démons qui vous attaquent quand vous êtes tout seul chez vous commencent à trembler.
Amen.
Alléluia. Je dis, mais il n'est pas tout seul. Il y a tout ce monde autour d'Hollywood. Là, 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 là. Il faut dégager vite. Parce qu'ici, c'est une cause perdue. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est ce qui se passe lorsque nous nous réunissons et nous prions. Alléluia. Nous faisons trembler l'opposition. Nous faisons trembler les ténèbres. La puissance du Saint-Esprit nous remplit. Et nous avons de l'assurance pour annoncer la parole de Dieu. Parfois, nous sortons de la réunion de prière. J'ai l'impression que je suis en train de marcher sur les eaux. Parce que lorsque nous sommes ensemble pour prier, une plus grande dimension de la présence de Dieu qui est là. Et beaucoup de gens qui ont du mal à prier chez eux, quand ils viennent dans une réunion de prière et ils se laissent conduire, il y a quelque chose qui vient sur eux. Cet esprit de prière vient sur eux. Tout d'un coup, boum, l'explosion se produit. Et c'est ainsi que chacun de nous est équipé et formé. C'est la raison pour laquelle nous nous rassemblons. La communication de la vie de Dieu, la formation du disciple, la transformation intérieure, nous réunir dans la présence de Dieu, une dimension de la présence de Dieu que nous ne vivons pas tout seuls. Alléluia. Glory to God. Alléluia. Ils se rassemblaient pour l'édification mutuelle. Et dans une grande dimension de la puissance de Dieu. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Dites, je bâtirai mon église. Ça, c'est la promesse que Jésus nous donne. Et Dieu est en train de recruter des gens qui vont saisir cette promesse. Et qui vont dire que Dieu bâtit son église avec un grand E et Dieu bâtit son église localement. Les assemblées locales seront bâties par le Seigneur si elles lui font confiance pour les bâtir. Nous avons beaucoup de moyens que nous pouvons utiliser pour bâtir. Nous avons beaucoup de systèmes que nous pouvons adopter pour bâtir. Mais si nous comprenons que c'est Jésus qui bâtit, alors nous savons que nous devons bâtir comme ont bâti les apôtres, sur l'enseignement de la parole de Dieu, sur la prédication de la parole de Dieu, sur les prières, la louange de Dieu, lorsqu'ils se rassemblaient également, ils louaient le Seigneur, ils le célébraient de tout leur cœur, sur la louange, sur la prière et sur la communion fraternelle. Alléluia. Ce sont les méthodes divines. Et moi, je veux adopter des méthodes divines. Et ce que nous constatons dans ce passage, c'est à quel point ils étaient unis. Et l'unité est essentielle. L'unité ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout. L'unité veut dire que nous nous aimons et nous fonctionnons dans un même esprit. Que nous comprenons le fait que nous faisons partie de la même famille. Nous faisons partie de la même maison. Nous nous aimons, nous nous honorons mutuellement. Et nous voyons Jésus en chacun. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Cause I see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur, car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Ça, c'est la réalité de ce que nous sommes censés vivre au sein d'une assemblée locale. Nous savons que souvent nous laissons notre chair et notre comportement humain prendre le dessus. On peut regarder sur Internet les gens qui disent qu'ils ne vont plus à l'église, des raisons qu'ils donnent pour ne plus aller à l'église. C'est très édifiant. Il y a quelqu'un qui écrit que les églises ne sont que des centres de commérage spirituel. En d'autres termes, les chrétiens, lorsqu'ils se réunissent, ne font que dire du mal les uns des autres. Et donc décident que je n'y vais plus parce qu'ils ne font que dire du mal. Il y a d'autres qui disent, oui, je ne vais plus dans une église parce que je ne sens pas la présence de Dieu. D'autres qui disent, je ne vais pas à l'église parce que je suis paresseux. Ça, c'était au moins, c'est honnête. Je suis paresseux. Je sais que je devrais y aller, mais je suis trop paresseux. D'autres qui disent, oui, je ne vais pas dans une église parce que ils n'aiment pas mon style de vie, donc je ne vais pas y aller. Et d'autres qui disent, je ne vais pas dans une église parce que ils chantent pendant une heure et ils prêchent pendant 15 minutes. Donc, tout ce qu'ils font, c'est chanter. D'autres disent, je ne vais pas dans une église parce que ils ne s'attachent plus à la parole de Dieu. Alors, il faut une petite sermonnette. 10 petites minutes juste pour égayer la foule et après c'est fini. Alléluia. Dis, je devrais photocopier ça et donner à tous les membres d'Abraham. Il y a des gens qui sont honnêtes, qui reconnaissent que c'est eux-mêmes. Et il y a aussi des gens qui n'ont pas de raison valable, mais qui disent des choses sensées. Et une des choses essentielles dans l'église, nous allons parler de cela la prochaine fois, quelles sont les caractéristiques d'une église? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Et le point fondamental dans nos relations les uns avec les autres, c'est que nous nous aimions. Et c'est que nous voyons la gloire de Dieu dans chacun de nous. C'est que nous reconnaissions qu'avec toutes nos imperfections, nous sommes la famille de Dieu. Alléluia. Que nous sachions nous aimer pendant que nous sommes en voie de perfection. Cela ne veut pas dire que nous allons accepter le péché comme étant normal. Nous n'acceptons pas ici le péché comme étant normal. Nous sommes très fermes là-dessus. Mais ce n'est pas une raison pour susciter des commérages. Ça, c'est quelque chose qui est terrible dans beaucoup de nos églises. Et souvent, nous supportons cela parce que nous pensons que c'est normal. Ce n'est pas normal. Dites, ce n'est pas normal. Nous sommes chrétiens. Ça veut dire que nous sommes des disciples de Christ. Ça veut dire que nous devons avoir le même comportement que Jésus. Et nous devons nous aimer et nous porter. Et une assemblée locale, une assemblée, c'est un endroit où les chrétiens, ce sont des chrétiens réunis qui se rassemblent, qui s'aiment. Dites qui s'aiment. Qui s'aiment profondément. Ça, c'est la première chose qui s'aime profondément. Non, ce n'est pas la première chose. La première chose, c'est qui adore le Seigneur. Qui aime Dieu et qui aime leur voisin. Alléluia. Remercions le Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nous allons demander à Dieu de travailler nos cœurs avec ce message. Amen. S'il y a quelque chose de particulier qui a parlé à votre cœur, qui est lié à un domaine de votre vie, ou s'il y a un domaine où vous trouvez que, oh Seigneur, ça, tout, mais ça, est-ce que vous savez que c'est vrai, ça nous arrive, ça vous arrive jamais, vous? Je peux écouter une prédication avant ça, je dis, oh, Seigneur, parle à mon cœur, alléluia. Après, j'écoute, et moi, tu sais, je suis en train de murmurer à l'intérieur, ah oui, ça, c'est merveilleux, l'autre, c'est le moment de dire, Seigneur, je viens t'en parler. Alléluia. Amen. Prions, prions. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes.